Ville PM. La voix est libre.
OK. Luc Lavoie, bon coup, mauvais coup du jour.
Oui. Ben,
comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, ça va très bien. On commence par l'Église?
L'Église, oui. L'Église qui va entreprendre après-demain un grand sommet convoqué par le pape à Rome, où il va y avoir des centaines d'évêques et de cardinaux venus du monde entier.
Je pense que ça commence dès demain même.
Ben, je pense officiellement jeudi, peut-être demain, d'accord,
cas,
d'accord,
peu importe.
Et c'est évidemment parce qu'il est confronté là, aux scandales sexuels qui sont en train de miner, mais de littéralement miner l'Église dans ses fondements, ce qui en soi est incroyable. Je veux dire, c'est une institution qui a 2000 ans, qui a traversé toute l'histoire de la civilisation occidentale principalement, et qui là se retrouve littéralement jeté à la poubelle par des tas de gens qui disent « Mais quoi? Ça fait longtemps, Bernard, qu'on entend parler de scandales, de pédophilie, de ceci,
d'agression,
de cela. »
Agression.
D'agression et de tout ce que tu veux.
Ouais.
Mais là, en plus, vient d'arriver sur la table quelque chose qu'on savait dans le fond, mais qu'on disait pas. Des prêtres qui ont couché avec des femmes et qui ont donc enfanté, qui ont eu des enfants.
Oui.
Puis on n'a-t-il pas découvert que l'Église avait des protocoles pour tenir ça bien relax, puis bien caché, bien comme il faut.
Pas toujours d'ailleurs des relations sexuelles consensuelles, parce qu'on s'entend dans ces prêtres qui ont donné, qui ont eu des rapports sexuels, puis qui ont éventuellement, qui sont devenus pères. Ben, il y a eu des femmes agressées, notamment des religieuses, violées.
Oui, puis on parle aussi de religieuses transformées en esclaves sexuelles.
Oh oui.
C'est de plus en plus grave.
Ça n'arrête pas, Luc.
Parce que pendant des années, pendant des siècles, en tout cas certainement pendant un solide siècle, ils ont tout fait pour étouffer ça. Hein? Alors que tout le monde savait, quand tu faisais affaire avec l'Église catholique au niveau du Vatican, c'est-à-dire avec la Curie romaine, que cette organisation était essentiellement dirigée par des homosexuels. Jusque-là, il n'y a rien de mal, sauf que l'institution qu'il servait et qu'il dirigeait était l'institution la plus homophobe d'entre toutes. Et il y a un livre qui vient de sortir d'un Français, un auteur qui s'appelle Frédéric Martel. Le livre s'appelle Sodoma.
Oui.
Je pense qu'ils ont bien pensé au timing du lancement du livre pour que ça coïncide justement, parce qu'il sort jeudi le livre. Ça coïncide avec ce sommet convoqué par sa sainteté le pape. Et il a passé 4 ans à voyager dans 30 pays, a rencontré 41 cardinaux, 1500 ecclésiastiques, et qui ont fait des confidences et qui ont dit, tu vois, pour comprendre l'Église catholique romaine, tu dois comprendre l'homosexualité. Mais oui, mais comment se fait-il? Parce que lui, Frédéric Martel, l'auteur, est un homosexuel avoué qui n'a aucune honte de quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Mais pourquoi, s'ils sont si homophobes, vous vous joignez à eux? D'abord parce que c'est un refuge où se trouvent des homosexuels comme nous, puis qu'on continue de professer notre homophobie parce que ça correspond à une certaine culture là où on retrouve l'Église catholique en grand nombre, par exemple en Amérique latine.
Donc ça te permet de vivre une vie hypocrite.
C'est-à-dire une vie complètement hypocrite.
Tu vis ta sexualité
oui.
avec d'autres du clergé.
Oui.
Puis
t'abuses de ton pouvoir aussi.
D'accord, mais publiquement...
Publiquement, t'es homophobe. On décrit l'homosexualité comme une maladie mentale.
Ouais.
Une chose qu'on peut corriger avec des traitements. On décrit l'homosexualité comme quelque chose qui s'apparente au péché.
C'est une maladie.
Le pape François avait lui-même fait un pas dans la bonne direction en disant...
Qui suis-je
pour condamner ces gens-là?
Voilà.
Mais par la suite, c'est le même pape qui a dit, peut-être que des traitements, ça leur ferait du bien si c'est détecté à un jeune âge.
Mais là, ce qu'on comprend, c'est que le pape là, actuel, François, là, il est pris avec une espèce de révolte interne.
Il y a un coup de palais qui est en train de se monter. Et ce que raconte Sodoma et son auteur dans plusieurs entrevues qu'il a données, c'est que ça tient beaucoup à la chasse que le pape a entrepris à la pédophilie, aux déviations sexuelles, à tout ce qui concerne la sexualité, qui était un secret que, sans qu'il y ait de règles écrites, était super bien gardé au sein de l'Église.
Il s'en accommodait tellement
qu'au plus haut niveau de la hiérarchie, ils étaient des homosexuels, parfois vivant avec un homme, parfois faisant affaire avec des prostituées mâles, parfois pire encore, qui ont eu des vies avec des petits garçons, comme McCarrick, qui a été défroqué par le pape la semaine dernière, l'ancien cardinal de Washington. Et là, l'Église Écoute, t'as 1000 cas aux États-Unis qui sont devant les tribunaux. En France, t'as un procès à l'heure actuelle qui est énorme, tu sais, qui concerne le cardinal de Lyon, là, qui a couvert des pédophiles, dont un qui était un aumônier des scouts. Et qui, le procès a lieu présentement. Le cardinal de Lyon, il faut savoir qu'historiquement, emmène quasiment plus large que le cardinal de Paris. Et là, le comprends-tu? Tu dis, hein? Vous avez fait quoi? Il les a couverts. Il les a cachés.
Il y en a plein comme ça, d'ailleurs.
Il y en a plein.
En Amérique latine, notamment.
Plein.
Puis je vais te dire, mais je
alors,
veux dire.
Alors, c'est tout ça, ce sont des crimes. Pas l'homosexualité.
Non.
La pédophilie, le cover-up, cacher des crimes qui ont été commis, l'hypocrisie de cette institution-là. Et quand tu penses que c'est l'institution qui a presque été comme le vecteur de l'évolution de la société occidentale. L'art a beaucoup évolué grâce à l'Église, l'architecture, l'organisation sociale.
La valeur humaine de la personne.
La valeur humaine de la personne.
L'idée que chaque personne a sa propre valeur, peu importe sa classe sociale,
d'ailleurs. Mais ça, c'est l'enseignement de l'Église.
Bien sûr, bien sûr.
Mais en plus, sur le plan institutionnel, ils ont été... comment dire, une force d'encadrement d'une société au Moyen-Âge qui se cherchait passablement. C'est autour de l'Église qu'on se rassemblait. C'est beaucoup l'Église qui est à la base de la Renaissance aussi, il faut le savoir. Mm-hmm. C'est aussi au sein de l'Église qu'on trouvait certains des plus grands intellectuels parce que tout ce qu'on avait découvert pendant l'Antiquité était comme disparu à travers les années noires du Moyen-Âge. Et là, on se retrouve avec quoi aujourd'hui? On est au 21e siècle, une église que plus personne ne fréquente en Europe, que plus personne ne fréquente en Amérique du Nord, enfin au Canada.
Et en Amérique latine,
en Amérique latine, c'est très fort.
Mais elle est sous pression.
Elle est sous pression pour la première fois.
Par les évangélistes, notamment.
Absolument.
Par les évangélistes.
Puis en Afrique, la même chose s'applique. Alors, c'est vraiment... On est témoin présentement d'un effondrement d'une institution. Et le pape François a l'air complètement désemparé. Et au lieu de reculer devant les menaces, tu te souviens de cet ancien nonce apostolique à Washington, donc un membre de la curie romaine, un membre de la diplomatie du Vatican, qui a fait une déclaration à l'emporte-pièce contre François, le dénonçant pour ses fautes sur le plan du dogme et tout le reste. Et là, c'était comme la pointe de l'iceberg. Il y a tout un monde autour de ça qui veut la peau de François, le pape.
Il y a des cardinaux très, très puissants là, qui, visiblement, souhaitent son échec. Là.
Mais c'est qu'ils deviennent de moins en moins défendables.
Bien évidemment. Mais moi, il me reste 2 minutes. Là. Il nous reste 2 minutes pour ce bloc-là. Là. Est-ce que tu penses que l'Église, si elle remettait en question le célibat des prêtres...
Réglerait son problème.
Elle le réglerait en partie.
En bonne partie.
Mais moi, je suis d'accord. Mais
je veux dire, instantanément
non,
le problème.
Non, mais, si
mais
tu...
à la base, il y a une négation de la nature humaine.
Mais c'est ça.
Et quand tu viens faire une négation de la pulsion sexuelle, ben c'est bête valeur.
Elle s'exprime.
Elle s'exprime mais
autrement. Elle s'exprime tout croche.
Tout
hein?
croche.
C'est ça.
Puis en fait, j'ai quasiment pitié de certains prêtres qui sont au cœur de ça, des homosexuels qui sont obligés de vivre ça à cachette. Puis c'était quel drôle de monde, quelle institution. Moi, je pense qu'elle vit une agonie présentement, l'Église catholique. Comment va-t-elle se relever de ça? Qui sera le prochain pape? Quelle sera sa force morale pour intervenir?
Est-ce qu'il y en aura un qui aura le courage à un moment donné de dire...
Célibat des prêtres, il faut en parler.
Si vous m'élisez pape, moi, je mets fin... J'amorce le processus pour mettre fin au célibat, là.
Il ne sera jamais élu.
Mais je sais bien qu'il ne sera jamais élu, c'est ça le problème?
L'auteur de Sodoma, ce qu'il dit, c'est justement ça, là. Le prochain pape, il va être comme les autres, là, parce qu'il est
élu. Il va être élu par du monde.
Ben oui, ce sont ses pères qui l'élisent. Alors, ils vont perpétuer
le statu quo.
Le statu quo, puis le statu quo, ma foi, est scandaleux. Il n'y a rien de moins que scandaleux.
Puis le statu quo, c'est un cancer.
C'est
qui ronge l'institution, puis qui est en train de la tuer.
Qui est en train de la tuer, ce qui est... Tu sais, j'ai toujours pensé, moi, que l'Église catholique était impossible à tuer. Mais là, je pense qu'ils sont en train de se faire harakiri eux-mêmes.
C'est quelque chose. C'est quelque chose. OK, on va s'arrêter. Au retour, tu veux me parler de potes?
Oui, on va parler de potes. C'est un bon coup, ça.
Oui,
Valérie Plante qui dit au gouvernement, vos patentes, là.
Ouais.
Tu sais, 18 ans au lieu de 21 ans, puis jamais sur la place publique. Ouais. Quelle hypocrisie.
Tu trouves, hein?
Bien, clair.
OK,
clair.
Ben il va nous dire ça après la pause, notre Luc, là.
Trêville PM. La voie est libre.
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on respecte l'autonomie des villes, des villes, dont Montréal, qui, je le rappelle, a un contexte particulier de 60 % de locataires. Alors, on ne peut pas dire aux gens, allez fumer chez vous. Alors, on veut trouver les bonnes solutions.
OK. Toi, tu trouves que c'est un bon coup. Valérie Plante, dans le fond, qui dit le projet de loi de la CAQ de monter de 18 à 21 ans l'âge légal, ça ne devrait pas s'appliquer à Montréal.
Pas juste ça. Elle met d'abord de l'avant l'idée que ça ne peut pas être consommé sur la voie publique, lui apparaît complètement absurde, alors que la décision de la Ville de Montréal, c'était justement de dire là où le tabac est permis, le pot est permis aussi. Alors là, elle dit non seulement le 18-21 ans, c'est une folie, parce qu'au fond, ce que ça va faire, c'est que ça pousse les consommateurs de 18 à 21 ans vers le crime organisé, ce qui est le contraire de ce qu'on souhaite accomplir. Mais elle dit en même temps, mais quelle hypocrisie, c'est légal. Puis là, ils ont développé cette phrase, là, les caquistes, ils commencent à me taper sur les nerfs avec leur niaiserie des fois. Ils ont développé une phrase, là, le cannabis, c'est légal, mais ce n'est pas banal.
Oui, ça, c'est...
Mais,
la... ouais.
Mais tu sais, moi, je suis pas là pour dire, vite, légalisons le pot. C'est pas là-dedans. J'ai jamais participé à cette croisade. Ceci étant dit, la loi, c'est la loi. Puis elle est là. C'est légal. Alors, partout au Canada, on s'adapte. Au Québec, on était bien parti pour s'adapter. Puis tout à coup, il y a du monde, là, dans les régions du Québec. Hey, le pot! Je pense rien qu'à mon père. Aujourd'hui, il est plus capable de s'exprimer comme il s'exprimait autrefois. Ouais. Mais mon père, il avait rien à faire, là, lui, le
Mais
pot.
Mais moi, je tripe pas, moi, sur le 18 ans, là.
Ben, c'est pas que je tripe sur le 18 ans, c'est que quand t'as la province d'à côté qui est à 18, puis toi t'es à 21. Puis deuxièmement, c'est la consommation, elle se faisait là par les 18-21 ans. Tu fais quoi? Tu leur dis...
Non, mais j'ai
regardé des études, là, puis c'est pas bon pour toi. Fait que si tu veux continuer d'en fumer, parce que t'en fumais déjà... Va voir ton dealer sur la rue, là, puis organise-toi avec.
Mais il y en a qui en fument.
Alors que la SQDC...
Il y en a qui en fumaient pas, puis qui vont en fumer parce que ça a été légalisé.
Il n'y en a pas bien, bien. Il n'y a pas un chiffre qui démontre ça à l'heure actuelle.
Moi, je ne crois pas ça.
Il n'y a pas un chiffre qui
démontre
ça.
Moi, je connais du monde qui ne fumait plus depuis des années.
Ouais.
Puis parce que c'est légal, ils ont été s'en racheter.
Bon.
OK, j'en connais.
Ah, ben, bon. Tu parles.
Tu sais, puis je ne dois pas être le seul.
Mais ça me fait rien, moi.
Tu sais, je ne dois pas être le seul. Bon. Puis moi, je vais te dire une affaire. Je les entends, les arguments de Valérie Plante, là, puis je les entends sur l'histoire de la place publique. Puis
c'est
tout
de l'hypocrisie. Ça me fait penser à la prohibition américaine. Qu'est-ce que ça a donné, la prohibition américaine? Un élan au crime organisé.
Moi, je vais te dire...
Ça a créé Al Capone.
Quand j'ai entendu les psychiatres, là, c'est ça qui m'a convaincu, moi, d'y aller mollo là-dessus. Là. Quand j'ai entendu les psychiatres dire là, que jusqu'à l'âge de 25 ans, le cerveau est en développement, puis que dans certains cas, la consommation du THC peut provoquer... des maladies mentales comme la schizophrénie, puis les psychoses, puis les... Franchement, là, j'ai trouvé ça con, la mesure de Trudeau, à partir de ce moment-là.
Alors, à partir de 18 ans, tu peux prendre de l'alcool, alors.
Et donc,
au courant des
et donc,
maladies
je suis pas
comme...
insensible, moi. Je suis pas insensible à,
la cirrhose
à l'engagement que la CAQ a prise.
Qu'est-ce que tu fais de la cirrhose du foie?
Elle a été élue là-dessus, l'engagement, de monter ça de 18 à 21 ans.
Ben
oui,
mais c'est stupide.
T'sais? Ben oui, mais c'est stupide. Ils ont été élus
là-dessus. Le pot, c'est légal, mais c'est pas banal.
Ben ouais,
Penses-tu que c'est une façon de vivre, ça? On nie la réalité. On nie la réalité, qui est que la consommation est plus forte chez les 18-25 ans qu'elle l'est chez les gens plus âgés.
Ouais.
C'est un fait. Ça tient à leur environnement, ça tient à leur âge. Puis là, tu dis, garde, vous êtes des pas mal gros consommateurs, mais nous autres, on a décidé que vous n'avez pas le droit. Fait que t'as le droit de fumer, mais t'as pas le droit d'en acheter à la SQDC. Puis à la SQDC, ce qui est encore le plus tordant dans ça, c'est qu'avec cette loi-là, ils vont être obligés de mettre dehors 19 employés parce qu'ils ont 18 et 21 ans.
Tu vas quand même pas.
Des niaiseries de la CAQ.
Tu passes ton temps à dire que la SQDC, c'est une niaiserie.
Mais
là,
c'en est une, mais bon, là, mais en là... plus, tant qu'elle fait des niaiseries, allons-y. On met à la porte, comprends-tu, ceux qui n'ont pas 21 ans. C'est des niaiseries de la CAQ, c'est des patentes à gosse, ça pas de comme. C'est comme l'immigration. On en dompe 18 000. OK, d'abord, next. Qu'est-ce qu'on fait? Alors,
mais
moi, je trouve que ce sont des banalités.
Il y en a 90 000 apparemment qui ont appliqué.
Ce sont des
là.
Banalités. T'sais, il est arrivé au pouvoir, le gouvernement, il a dit, moi, je vais vous montrer. Que je tiens ma promesse. Projet de loi numéro un, c'est pour qu'on fasse élire par l'Assemblée nationale le directeur de l'UPAC,
directeur de la Sûreté.
Ça, c'est le projet de loi
tiers,
numéro un.
Aux deux tiers. Ben
d'accord.
Oui, c'est une bonne affaire, ça.
Attention, laisse-moi finir. Bonne
affaire.
Loi numéro un, OK,
oui.
Pour montrer que nous autres, on n'est pas des taponneux. Loi numéro deux, le 18-21 ans.
Oui, ils ont été élus là-dessus. Ils ont été élus là-dessus?
Oui, mais...
T'aurais préféré qu'ils
respectent
pas.
Toi, Bernard, t'es
non,
péquiste.
Non, moi, je suis pas péquiste. J'ai été péquiste, là, je suis plus rien. Là.
Non, mais...
OK, là, je critique de tout le monde, puis là, quand ils font des bons coups, j'ai donné à tout le monde.
1976, 15 novembre, René Lévesque et son gouvernement sont élus. C'est quoi le projet de loi numéro un?
C'est celui sur le financement des partis.
Non.
Oui.
Non. le projet de loi numéro 1, c'est le projet de loi sur la loi 101 qui est devenu 101 à cause d'une entourloupette.
Ah, ben là.
À cause d'une entourloupette.
C'est ça.
Mais... Oui, mais là, ce que je te dis, c'est pour ou contre.
Oui.
C'est un gouvernement qui est arrivé avec quelque chose de substantiel. Regarde, mon projet de loi numéro 1,
oui.
c'est à la base de ce que je suis et que je professe.
D'accord.
Je le dépose sur la table.
Oui.
Eux autres, c'est les votes aux deux tiers pour le chef du PAC.
Ben oui, c'est bon, ça, c'est une bonne mesure.
Ça n'a pas de commune... Ça... Bernard,
d'ailleurs,
arrête.
Si tu voulais planter quelqu'un aujourd'hui, tu planterais les libéraux qui se sont opposés au vote du deux tiers pour les chefs de police puis qui aujourd'hui montent aux barricades en disant « Pourquoi vous nommez pas le chef de police de Montréal aux deux tiers? »
Pendant tout le temps qu'il...
À pitié, maudite gang d'hypocrites, tant qu'à moi.
En tout cas, je veux te dire une affaire. Qu'est-ce qu'on va faire quand les 19 ans vont commander en ligne en provenance de l'Ontario? On va y coffrer?
Ils commanderont. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais te dire franchement mon malaise sur l'histoire du pote.
Alors, quand t'es élu en disant juste des niaiseries, t'es obligé de tout les mettre de l'avant?
Mon malaise sur l'histoire du pote, c'est que je trouve qu'en le mettant, en le légalisant comme on le fait, je trouve qu'on le banalise. Et moi, je vois très bien...
Garde,
moi, j'ai reçu à cette émission-là...
Que chum avec
moi, j'ai reçu à cette émission-là...
Le cannabis, c'est légal, mais ce n'est pas banal.
Si tu savais le nombre de parents, de papas, moi, que j'ai reçu à cette émission, j'en ai fait 3-4, des bons pères de famille qui sont venus me raconter l'histoire de leurs enfants qui ont développé une maladie mentale parce qu'ils ont commencé à fumer trop de bonheur, selon eux. Ça, c'est le père qui me parle.
Ouais.
Et là, oui. Puis moi, sais-tu quoi? Je suis sensible à l'argument de la CAQ de dire, en mettant ça en 21, maintenant, on envoie un signal. On dit aux jeunes...
Ils sont pas capables de respecter cette loi-là. Mais pourquoi tu fais
attendez
ça?
Attendez avant de fumer.
T'aimerais pas mieux qu'il y ait la SQDC où on supposait que la qualité va être contrôlée? On va juste leur dire attendez avant de fumer. En d'autres mots, ils fumaient avant, là. Puis là, ils vont arrêter parce que tu as adopté un projet de loi puis que Bernard Drainville et ceux qui pensent comme lui ont une supériorité morale de leur dire voici...
Je me drape pas là-dedans. Hein. Mais ce que je te dis, c'est que ceux qui fumaient vont continuer, à mon avis, à fumer.
Excuse-moi, Bernard.
Et ceux qui ne fumaient pas, je sais ce qui arrive, laisse-moi juste finir ma phrase. Ceux qui ne fumaient pas, à mon avis, en le mettant à 18 ans comme on le fait, et en le légalisant, je pense qu'on envoie un signal de banalisation. C'est ça que je veux dire.
Ben là, Lionel Carman va t'aimer parce que la phrase qu'il y a dans la bouche sans arrêt, c'est le cannabis, c'est légal, mais ce n'est pas banal.
Bon.
Alors, Bernard, t'as appris ta ligne.
Pas en tout.
Puis on peut sortir puis aller dans le breaking news.
Oui, on peut sortir. Ben oui, c'est ça. Arrête de parler, puis on va y arriver.
Bernard!
Alors, un ancien vice-président de SNC-Lavalin qui obtient l'arrêt des procédures.
Incroyable.
Alors, c'est le deuxième, là.
C'est le deuxième en quelques jours, mais dans son cas à lui, ce que je vois, c'est que dans l'autre cas, M. Bebaoui, c'était pas toutes les accusations qui ont tombé sous le coup d'une décision de Jordan.
Mais dans ce cas-ci, c'est le cas.
Et dans ce cas-ci, ça a l'air d'être toutes les accusations. Et ça, c'était un des gars clés dans l'affaire. C'est lui qui devait nous produire des milliers de textos puis de courriels pour nous montrer à quel point c'était une culture d'entreprise. Si ce procès-là avait eu lieu, ça aurait été... assez dévastateur.
Oui, oui.
Et là, out!
Il était accusé, je vous le rappelle, de fraude, d'avoir violé les sanctions des Nations unies contre la Libye.
Et corruption d'agents étrangers.
Ça a été trop long. C'était un autre Jordan.
Alors, après ça, tu vas essayer de convaincre les Québécois. Bon, ben sauvons SNC-Lavalin. Ils vont dire, y a-t-il quelqu'un qui est puni dans cette affaire-là?
Non, c'est sûr que c'est ça.
C'est dur à vendre, ça.
C'est sûr que c'est dur à vendre, mais il ne faut pas se laisser... Distraire. L'objectif, c'est de sauver des milliers de jobs aussi à un moment donné.
Puis un siège social super important, puis de l'expertise bâtie sur 2-3 générations.
Les employés là, qui travaillent chez SNC, ils n'ont rien à voir avec les pourris.
Oui, puis la haute direction n'a plus rien à voir avec ces pourris-là. Ouais. Il n'en reste plus un seul
c'est
à l'époque.
Ça. Alors, gardons ça à l'esprit.
Mais encore un qui s'en sort à pas cher.
Bon.
Et ça, on est obligé de parler de l'incurie de la justice. Comment ça se fait que ça a pris 5 ans? Veux-tu me dire pourquoi ça a pris 5 ans?
Alors là, on a... Ben non, je sais ça. Mais il y en a bien comme ça, là. Il y en a bien comme ça, là.
Je
on a échappé, notamment des motards.
Mais quand on a vu Jordan, qui est arrivé en place il y a 2 ans, veux-tu me dire pourquoi ils se sont pas réveillés pour dire « Oh boy, on a un gros scandale sur les mains. On est mieux d'aller de l'avant parce que le gars va s'en sortir par une technicalité. » Ce qui est le cas, il s'en sort par une technicalité. Puis on saura jamais ce qui aurait pu exister, dans ce qui aurait pu être dit dans ce procès-là. Et c'est ça qui rend la tâche si difficile de dire aux gens « Comprenez-moi bien, Trudeau avait raison, il faut sauver SNC-Lavalin. »
Alors, quelques réactions à notre discussion sur le pote. Vive le pote libre. T'as pas de classe, Lavoie. Ton temps est fini.
C'était ça que tu voulais lire, surtout. Hein?
Luc Lavoie, je vous ai toujours trouvé brassé de merde pendant longtemps, mais je vous écoute. Puis là, plus je vous écoute, plus je vous trouve sensé. Hein, tu pensais...
un autre!
Je pensais pas que je le lirais, celle-là. Hein? La légalisation du cannabis n'aurait jamais dû se faire.
Ça, c'est d'autres choses.
On est d'accord. Et Luc et Bernard sont de vrais bons potes.
Wow!
Martin McGuire dans un instant.
Bon match!